Ça sent le cinéma, je trouve. Avec Dominique, qui est parmi nous, c'est le mag hein, jusqu'à midi. Je rappelle ça à nos auditeurs, vous êtes sur Radio Chalette. C'est le mag jusqu'à midi. Et là, Dominique qui vient donc pour les cramer de la bobine. Avec donc cette semaine au programme un roman graphique.
Ouais, c'est ça. Bonjour Didier, bonjour Pascal. Bonjour Thibault. Bonjour à tous. Eh bien, cette semaine, effectivement, l'actualité des Cramés de la Bobine, c'est le film La tête en l'air, un film d'animation espagnol de Ignacio Ferreras, un film qui est sorti en France en février 2013, donc un film tout à fait récent. C'est un roman graphique hein, qui a été adapté d'une BD qui avait reçu énormément de prix et qui avait été traduit d'abord en français et ensuite dans 10 langues différentes. Donc l'histoire, c'est un vieux monsieur qui est très digne et très réservé, un peu rigide. Et après une vie professionnelle extrêmement bien remplie, sa mémoire lui joue quelques tours. Et la maison de retraite devient alors une évidence, surtout pour ses enfants. Lui, je ne peux pas tellement décider, mais les enfants, ils vont un peu le pousser, quoi.
C'est une problématique qu'on retrouve dans la réalité, on retrouve cette problématique.
Il y rencontre Miguel, un garçon argentin qui est installé dans cette maison de retraite depuis longtemps, c'est un patient également, et puis ils deviennent copains. Et ça développe chez lui un nouvel univers, de nouveaux amis, plein de fantaisie, mais ils ont aussi des souvenirs riches, variés, très différents, des rencontres extrêmement différentes. Mais ont aussi leur petite défaillance due aux effets du temps. Alors que les premiers signes de la maladie d'Alzheimer apparaissent chez Emilio, Miguel et quelques amis vont se mobiliser, d'une curieuse façon d'ailleurs, quand on voit le film c'est un peu fort comme mobilisation, pour éviter son transfert au dernier étage. Alors, c'est le transfert des causes perdues, c'est le mauvais étage, celui-là, c'est celui qui est l'avant-départ, en fait, on va dire. Et leurs stratagèmes vont rythmer leur journée et apporter humour et tendresse à leur quotidien. Pour ce film d'animation sur la maladie d'Alzheimer, un sujet extrêmement sensible, le réalisateur préfère la mélancolie au drame et l'humour à la simple compassion. Ce n'est pas un film avec un message, mais Ignacio Ferreras a juste voulu apporter une réflexion sur la vieillesse, sur la dépendance. La dépendance dans cette maladie, c'est effectivement assistance permanente, et surtout, et sur une maladie qui progressivement fait perdre tout ce que l'on a pu accumuler dans une vie, la mémoire, la personnalité, la mobilité. Dans la maladie d'Alzheimer, effectivement, et dans ce film, on le voit bien, la mémoire, c'est pas forcément que se souvenir de quelque chose. Ça peut être ne plus savoir marcher.
Oui, et puis c'est les comportements, voilà,
progressivement, on ne sait plus très bien manger, on fait des fausses routes. On peut aussi, en cours de chemin, faire des petites courses et se perdre, ne plus savoir où on veut rentrer. Donc, c'est des choses qui vont commencer à s'installer dans ce film. Et grâce à l'animation en 2D traditionnelle, tout en très simple et couleurs chaudes, franches, leur histoire grave et vive est comme dépoussiérée. Le sordide est balayé comme une caresse sur les visages ronds. Alors, c'est dessiné d'une façon simpliste, mais c'est très, très expressif. Hein. Effectivement, ce sont des visages ronds, des visages doux, hein, candides, avec des yeux grands ouverts. Sympa et stylisé, bien sûr. Dans cette maladie, le malade ne parle de son présent en allant chercher de plus en plus loin dans ce qui reste de sa mémoire. Des vieux souvenirs ou événements qui ont jalonné sa vie et racontent ces événements quelquefois comme si c'était le présent d'aujourd'hui. Ça fait un décalage terrible. Et quand on n'est pas préparé à ce genre de discussion, et ça, le film, on le voit bien, il y a un grand décalage et il faut rester extrêmement concentré et lucide par rapport à ce qui est évoqué et pas essayer de le remettre dans un autre temps parce que ça serait le punir un peu à sa façon. Hein. Ce film donc est un bel hommage à la dignité, à la solidarité qui s'exprime jusqu'au bout de la vie. Et j'ose dire, dans la déconnade et l'amitié, c'est vraiment joué comme ça. Et puis pour ce film, moi je voulais terminer par une phrase de François Mauriac qui dit simplement ceci, c'est merveilleux la vieillesse, dommage que ça finisse si mal.
Donc les séances.
Alors cette semaine, nous avons...
Voilà. Petit extrait. Alors ça c'est en VO, donc. Alors nous on a l'image. Donc effectivement c'est un dessin animé. Alors c'est ce qui fait sans doute ce qui fait que c'est un film qui est sympa, etc. Ça aurait été un vrai film ou un vrai documentaire sur la maladie d'Alzheimer. Ça aurait peut-être terminé au Festival international du film chiant qui se déroule en ce moment à Marseille, par exemple.
Peut-être bien. Mais je pense que ce film et traite parfaitement la façon dont l'animation est organisée. Ça donne une image de la maladie d'Alzheimer qui n'est pas lourde du tout.
Voilà, oui, c'est un côté un petit peu fun. Justement, le côté en plus animation fait que là, on est dans une histoire.
Il y a beaucoup de traits d'humour et de la dérision dans certaines scènes. Et pourtant, il y a une forte émotion. Et on voit bien que l'évolution de ces personnages, inéluctablement, ça s'enfonce un peu dans cette maladie.
Donc c'est à l'Alticiné.
Alors c'est à l'Alticiné de Montargis. Mm-hmm. C'est toujours quatre séances par semaine. La première, c'est le jeudi soir à 18h. Et puis donc demain, dimanche, nous avons une séance à 18h. Mm-hmm. Nous avons une autre séance lundi à 14h. Et mardi, c'est la traditionnelle séance avec le débat, c'est à 20h30 et c'est animé cette semaine par Georges Bidault, qui est un adhérent des Cramés de la Bobine.
D'accord.
Voilà, pour l'actualité directe de la semaine, c'est donc le film La Tête en l'air, un film d'animation.
D'accord. Et le reste de l'actualité, justement.
Attends, je voulais juste dire quelque chose, Pascal, sur ce film. Je voulais dire que c'était donc effectivement une adaptation de la bande dessinée éponyme de Paco Roca. Donc ça, les gens l'ont... Ça a été publié en 2007, donc ça a été beaucoup, beaucoup vu. Hein, ça, c'est sûr, beaucoup. Et ça a été un grand succès dans le monde entier. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a été traduit en 10 langues. Mmh. Et ça a eu de nombreuses récompenses pour ce roman. Le réalisateur, donc Ignacio Ferreras, et alors on le trouve déjà primé en 2012 pour ce film, hein, au Goya. Il a eu le meilleur animation, le meilleur scénario adapté. Puis à Annecy 2012, il a eu une mention spéciale. Alors moi, je pense quand même qu'un film, une animation qui reçoit des prix comme ça, c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Et il y a assez peu dans le cinéma des films d'animation. Mmh. Hein, très peu. On a en ce moment une vague de noir et blanc muet. Mais des films d'animation, c'est le dernier, c'est devait être Persepolis ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Enfin, c'est des films pour adultes. C'est peut-être pas non plus. En Europe, je pense, parce que au Japon, n'en parlons pas. D'animation pour adultes, c'est monnaie courante, c'est même leur moyen principal d'expression. Aux États-Unis, il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est en général, on réserve l'animation pour les enfants. Ah, quoi. Pour les enfants. On parle pas aux adultes avec des dessins.
Alors, Ignacio Ferreras, il a à son actif aujourd'hui environ une dizaine de films et de télé. On l'a vu notamment en 2006 au storyboard de Astérix et les Vikings. Il apparaît dans l'animation générique. Et puis on l'a aussi une animation justement en 2008, c'est Tokyo Olympique. C'est une animation où il y a plus de 10 réalisateurs. C'est un film japonais, il intervient dedans. Donc voilà ce film, donc La Tête en l'air de Ignacio Ferreras. La semaine prochaine, on a le mois d'avril, on a notre programmation d'avril. Là, on peut déjà annoncer pour, à partir de jeudi, un film mexicain qui s'appelle Ici et là-bas. C'est un film qui est de Antonio Méndez Esperza. Voilà. Et puis, on a un grand événement la semaine prochaine, le 6 et le 7 avril. C'est le deuxième week-end jeune réalisateur. L'année dernière, nous avions reçu l'équipe de Donoma, notamment. Mmh. Nous avions reçu aussi...
Qui avait laissé un grand souvenir.
Guillaume Braque pour son film, je ne me souviens plus de son nom d'ailleurs, mais c'était Guillaume Braque qui était venu avec son acteur. Et cette année, donc, nous avons 6 films, 3 le samedi, Mobile Home, L'âge atomique, Le jour de la grenouille, et puis dimanche, on a Hors les murs, Mauvaise fille, Comme à Lyon. Mauvaise fille, c'est le film français pour lequel Izia Higelin a obtenu le César du meilleur jeune espoir féminin. D'accord. Et puis la semaine prochaine, donc, nous aurons une invitée pour présenter ce programme complet du week-end des jeunes réalisateurs. C'est notre président des Cramés de la Bobine, c'est Daniel Fenturel qui viendra dans ce studio nous parler de ces deux journées de cinéma exceptionnel.
D'accord. Ça, donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce week-end des jeunes réalisateurs.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout pour l'actualité des cramés de la bobine. Petit quiz, tiens, puisque chaque fois qu'on se voit, j'explique ça à nos auditeurs, chaque fois qu'on se voit avec Dominique, on parle musique de film. Et donc aujourd'hui, comme je viens de façon un petit peu exceptionnelle, je ne suis pas venu les mains dans les poches, je lui ai apporté un petit extrait sonore et puis je voulais lui demander... mais de quel film s'agit-il? C'est la bande originale d'un film. Est-ce que tu vas retrouver le film dont il s'agit?
C'est un peu exotique, non?
Ah, ça se passe en partie dans les îles.
Non, je peux pas te dire tout de suite comme ça. J'ai bien une idée, mais ça me semble... tellement un peu loin, quoi. La route du Rhum, non?
Oui.
Non, c'est pas la route du Rhum. Si.
C'est boulevard du Rhum.
Ah ben, tu vois, je me suis trompé. Eh bien, Pascal, puisque tu m'as fait cette surprise, moi, je vais te faire écouter une musique. Écoute bien et tu me dis ce que ça pourrait bien être.
C'est assez éthéré, hein, comme on dit. Alors, je la joue un peu comme dans Les Loups la cuisse, là. C'est quand il regarde le verre de vin, qu'il regarde la couleur. Ça sent les grands espaces, ça sent... alors, des films qui se passent dans les grands espaces, on connaît, mais là, je sèche un petit peu, je dois dire.
Les grands espaces, c'est une bonne image. Hein.
Parce qu'en général, c'est vrai que la musique d'un film... donne un peu une idée, c'est l'intérêt d'une musique de film, c'est que ça prête à rêver.
Ouais, si tu rêves bien, Pascal, parce que tu es dans le ton, finalement, je pense. Alors, si tu veux, c'est la musique du générique final de Rendez-vous avec Iruna. Et alors, si tu veux, la surprise, c'est que, effectivement, notre compositeur, réalisateur de cette musique, est dans le studio, c'est Pascal Bidou qui est avec nous.
Il vient de sortir de la poche de Dominique.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
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 Donc la musique qu'on vient d'écouter, c'est toi qui en es l'auteur.
Tout à fait.
Alors Pascal est invité aujourd'hui dans les studios de Radio Chalette parce que c'est quand même un garçon de notre région. Et bien sûr, il est Montargois, exactement, je crois qu'on peut dire, de Saint-Germain-des-Prés. C'est un joli nom, Saint-Germain-des-Prés, ouais. Ça évoque beaucoup de choses, Saint-Germain-des-Prés. C'est un hasard ça, Saint-Germain-des-Prés, la musique, non, quand même
Certainement.
Ouais, certainement. Donc Pascal, je crois que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans le Montargois, entre les études et la musique.
Je suis né à Montargis et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée dans la région. Donc je suis allé au Clovino en primaire à Milly, ensuite collège Robert Schumann, et j'ai fini au lycée en Forêt.
Lycée en Forêt. Et puis, tu parallèlement à ça, je crois que tu faisais partie de groupes...
plusieurs formations, ouais. Notamment un groupe qui s'appelait les Lutings Garden, avec Benjamin Plaisance et Bertrand Brehm.
Ouais. C'était vous les pilleurs de Nan Jardin, non?
Il est possible.
Okay.
Et donc, puis... ta carrière ne s'est pas arrêtée là, du coup, toi, tu as continué dans la musique.
Je crois qu'avant, tu es parti faire un petit stage à Orléans quand même. Et qu'est-ce que tu faisais à Orléans à ce moment-là?
J'étudiais le droit.
Ouais, et de Orléans, tu es parti carrément à Paris.
À Paris, voilà, pour finir.
Et là, tu as un bon diplôme dans le droit, je crois.
Ouais.
Et tu continues la musique.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, entre le cabinet d'avocat et la musique, tu fais ce choix de la musique?
Ah ça paraît... ça paraît évident. Non, c'est effectivement, il y a eu un choix à faire. Je me suis vite rendu compte qu'en continuant... le droit, je devais arrêter la musique, en fait. Ou en tout cas, la reléguer au week-end des jours fériés. Donc voilà, j'ai choisi la musique.
Je crois que tu as toujours pratiquer la musique, tes parents, ta famille, ils sont
musiciens. Oui, mon père est musicien.
Ton père fait partie d'un groupe en ce moment, je crois.
Oui.
Il fait du jazz, du blues.
Il fait du jazz, du blues. Il a fait partie de beaucoup de formations.
Ouais.
Et il chante, il fait de la guitare, il fait de l'harmonica.
Donc il y a une musique. C'est une famille très musique. Très musique.
Il y avait un environnement propice.
Tout à fait.
Donc Pascal, en fait, à Paris, tu te lances complètement dans la musique et tu essaies de te faire connaître, d'avoir des contrats, de rencontrer des gens. Et ça commence à être un peu difficile, ce métier là, non? Les rencontres.
Là, c'est beaucoup les rencontres, en fait. Et ça se passe vraiment au gré des rencontres, aux gens qui acceptent de vous accorder leur confiance. Et voilà, donc c'est vrai que le travail appelle le travail, comme on dit. Donc au début, c'est beaucoup travailler gratuitement. Ce qui est tout à fait, quand on fait de la musique de film, c'est.
Beaucoup de projets.
Surtout sur des musiques de court-métrage, de choses comme
voilà,
ça.
Voilà, exactement. Exactement.
Parce que c'est ça le problème, je vois ici, quand on organise des soirées courts-métrages ou des choses comme ça, c'est que le problème des jeunes réalisateurs qui veulent pouvoir faire tourner un court-métrage, il faut qu'ils aient une musique originale, parce qu'autrement, ils ont effectivement des droits à payer, et donc, effectivement, il faut trouver un compositeur.
Mais alors, quand on regarde un peu le parcours de Pascal Bilot, je m'aperçois qu'il y a dans les années 2002-2005 des courts-métrages avec Mathieu Robin.
Tout à fait.
Il y a trois courts-métrages où tu interviens comme compositeur de musique pour ces courts-métrages.
Mathieu, c'est mon cousin déjà. Donc, c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Il a commencé à réaliser des courts-métrages assez jeune. Il a fait son premier court-métrage, je crois, quand il était au lycée à Montluçon. Il était dans une section film au lycée de Montluçon. Et donc, il m'a appelé pour faire la musique de son tout premier court-métrage. Alors parce que moi, il savait que j'étais passionné de musique et je faisais de la musique tout le temps quand on se voyait, etc. Mais c'était ma première musique de court-métrage, en fait. C'est la première fois que je composais pour l'image. Et ensuite, ça a été une collaboration renouvelée.
Et c'est ça qui a été le déclencheur, parce qu'effectivement, on se dit, a priori, musicien, on ne se tourne pas en premier vers de la musique de film, qui est quand même un genre, enfin, vraiment, c'est un vrai travail particulier. En général, on est plus dans la chanson, dans des choses comme ça. Donc,
c'est vrai que c'est très. C'est par le fait de faire que la passion arrive. Et c'est aussi beaucoup cette. Il y a un côté très intéressant dans la musique de film qui est passionnant, c'est de trouver le ton juste. Donc il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de tentatives manquées, et c'est la quête vraiment qui est perpétuelle. Et quand on trouve, il y a une satisfaction qui est...
Parce que c'est une musique, la musique de film, c'est une particularité. C'est d'une part, effectivement, il y a une tonalité, c'est-à-dire qui doit finalement servir l'image. Et puis c'est une musique qui doit presque se faire oublier, justement, en plus par rapport à l'image.
Qui doit surtout pas être une redite, de toute façon, de ce qui se passe à l'image. Donc c'est une musique qui doit apporter un autre degré de lecture ou apporter une autre lumière sur les événements, sur les situations, sans jamais être dans la redite ou dans le fait de souligner quelque chose. Donc oui, c'est...
Donc, donner une unité, une cohérence à tout...
Une cohérence, tout à fait. Ouais.
Là, on écoute un thème de... C'est Rendez-vous qu'on a, celui-là ?
Ouais, ça c'est un... Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été utilisé. Ça fait partie des recherches de musique que j'ai composées pour quand on cherchait avec Anna dans quelle direction on voulait aller. Et donc ça, c'était un brouillon de générique de début, ça.
Donc c'est une musique qui n'a jamais été diffusée.
Non.
C'est une première pour Radio Chalette. C'est une première pour Radio Chalette en Auvergne. Tout à l'heure, on parlait... de ton cousin Mathieu Robin, tu le rencontres après sur un long métrage quand même, et dans La Grande Personne, je crois qu'il est co-scénariste.
Oui, oui. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a présenté Anna Novion.
D'accord.
Qui à l'époque cherchait un compositeur. Et donc Mathieu tout de suite lui a dit mais.
J'en connais un.
Justement, j'en ai un dans la poche.
Et Pascal. Pascal le Parisien, à un moment donné, va partir à Londres.
Ouais.
C'est un changement radical dans la vie, dans beaucoup de choses, et dans le métier, parce que tu as quelques contacts là-bas quand tu arrives à Londres. Ça
s'organise assez peu. J'ai assez peu de contacts. J'arrive un peu sans aucun contact. Et puis encore une fois, c'est des contacts de France qui vont me qui vont me faire connaître quelques personnes et qui vont pouvoir me...
Il y a des milieux, des cercles où on rencontre plus facilement
Disons que pour moi, ça s'est toujours passé, c'est toujours les réalisateurs, en fait, qui m'ouvrent des horizons, quoi. Et là, en l'occurrence, à Londres, j'avais travaillé déjà avec un collaboré, avec un réalisateur qui s'appelle Laurent King, qui avait fait un court-métrage pour lequel j'avais fait la musique qui s'appelait Idiothèque. Et lui était représenté à Londres par une agence. Et donc il m'a présenté à cette agence qui faisait essentiellement beaucoup de publicité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Londres à travailler, à faire de la musique de publicité.
Donc cette musique de pub, c'est un peu un quotidien, non ?
C'est un tournant,
Pascal, combien peut-on faire de projets pour en sortir dans une année ?
En musique de publicité, on pitch beaucoup, comme on dit. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses. Et au final, je ne sais pas, si on fait trois pubs par an, c'est bien.
Et alors, à ce moment-là, tu signes un contrat avec celui qui a pris ta musique, mm-hmm, et pour l'intégrer à sa marque. Ce contrat, est de quelle durée ? Tu récupères après ou pas ?
Ça dépend, oui. Généralement, on récupère. Généralement, ils achètent pour un an, attaché à certains territoires ou à tout le monde. Alors après, ça dépend vraiment de la campagne. Si c'est vraiment une très grosse campagne, ça peut être pour la planète entière.
C'est un bon contrat, là.
Il y a des gens qui veulent aussi, il y a certaines marques ou certaines agences qui demandent aussi les droits à perpétuité, par exemple. Donc là, on récupère rien du tout.
Mais c'est possible.
Tu touches quand même les droits d'auteur.
Ouais. On touche les droits d'auteur, oui.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs en droit français. Ça, il me semble que la perpétuité en France.
Non, c'est limité à le droit d'auteur. Je crois que c'est 50 ans en France.
On parle d'une catégorie. Ça, c'est les droits d'exploitation. Voilà, c'est les licences.
Ouais. C'est les licences.
Donc ça, effectivement, ça reste. Ça peut rester beaucoup plus longtemps dans le giron des maisons de production, en fait.
Et on revient un peu au cinéma parce que donc tu rencontres Anna Nouvion et tu vas. Avec ton cousin Mathieu Robin, donc tu es le compositeur de la premier film de Anna Nouvion qui est Les Grandes Personnes. Tu as des anecdotes sur Les Grandes Personnes ?
Oui, toujours, mais disons que sur Les Grandes Personnes, c'était la première collaboration avec Anna Nouvion et ça s'est très bien passé. On s'est entendu très vite, tout de suite. Dès qu'on s'est rencontrés, on a su qu'on avait à peu près la même manière de voir les choses. Et la musique des Grandes Personnes, j'ai écrit tous les thèmes et tout était quasiment fait avant qu'elle ne commence le montage, en fait. J'ai beaucoup travaillé à partir de paysages. Donc pendant qu'il tournait, il m'envoyait les paysages qui shootaient là-haut et j'ai composé le thème principal et les autres thèmes qui tournent autour quasiment à partir des paysages, ouais.
Et ça prend du temps pour par rapport aux images que tu reçois. Tu as un temps pour réaliser tes thèmes musicaux.
Disons que c'est toujours mieux quand le réalisateur rentre en salle de montage avec son monteur et qu'ils vont commencer à monter le film. Et là, il y a quelques mois, ils vont avoir quelques mois pour monter le film. C'est toujours mieux qu'ils aient déjà de la musique parce que ça leur donne des pistes et ça leur ouvre des possibilités. Et des fois, quand ils sont un peu coincés ou quoi que ce soit, ça permet de, avec la musique, on peut faire des ellipses, on peut vraiment.
Oui, et puis même se caler par rapport à.
Et ça donne un rythme également aussi. Donc, généralement, on essaye toujours, en tout cas, j'essaye toujours d'avoir quelques thèmes prêts quand ils commencent à monter, comme ça, ils peuvent regarder si ça fonctionne ou pas.
Et puis, l'histoire avec Anna Nouvion et Jean-Pierre Desroussins continue sur le deuxième film, c'est Rendez-vous à Kiruna. Ouais. Et là, je crois que tu es encore plus impliqué dans ce film. Tu connais mieux les séquences, encore plus.
Oui, c'est-à-dire que là, on a vraiment... Anna Nouvion m'en a parlé depuis le début, donc depuis le germe de l'idée jusqu'au premier brouillon, jusqu'au premier traitement et jusqu'au la multitude de versions de scénarios qu'il y a eu, parce que c'est un scénario qui a beaucoup évolué. Donc là, j'ai vraiment été, pour le coup, on en a parlé vraiment très longtemps avant. Je pense que trois ans et demi avant, on avait déjà des conversations téléphoniques sur l'histoire, les personnages. J'ai d'ailleurs composé quelques thèmes avant même que qu'on soit sûr que ça allait être produit avant même qu'il y ait de l'argent sur ce film.
Ça pouvait donner envie.
On en parlait tout à l'heure justement à d'autres propos justement sur cette façon de justement on part, il y a une histoire existante, il y a un ton existant et puis donc faut composer la musique qui va avec, ou bien justement ça peut être la musique qui va donner le ton à l'écriture aussi. Ouais. Derrière c'est mm-hmm. deux façons de travailler relativement
Oui, et puis je pense que les réalisateurs écrivent aussi beaucoup avec la musique, en écoutant de la musique. Enfin, voilà, je sais que moi, Anna, pour Rendez-vous à Kiruna, j'avais toute sa playlist de morceaux qu'elle avait écoutés en écrivant.
Mmh. Oui, donc du coup, ça donne aussi l'ambiance, la
teinte.
Ça donne
le ton, ça donne un ton. En tout cas, ça donne le ton dans lequel ça a été écrit. Après, ce qu'elle disait, c'est il ne faut pas nécessairement que ça soit justement dans cette veine-là, et ça serait intéressant d'ouvrir sur quelque chose d'autre. Mais en tout cas, voilà comment je me sentais quand j'ai écrit. Donc ça, c'est une indication.
Et Pascal, est-ce que au montage du film, tu pouvais intervenir en disant sur telle séquence, faut mieux pas mettre de musique?
Ah, ça c'est oui. Bah, enfin, disons que c'est pas moi qui interviens en disant.
Je veux pas.
c'est une conversation qui n'en finit jamais. Mais moi, ça reste un de mes. Je conseille jamais de mettre de musique quand les scènes fonctionnent sans. Je vois pas pourquoi mettre une musique quand tout se passe bien et qu'on en ressent vraiment aucun besoin au premier visionnage.
Je crois savoir que dans ce film Rendez-vous à Kiruna, il y a eu deux scénarios un peu différents avec une même trame en la limite, mais avec des intervenants différents, une histoire différente. Et je crois que tu m'as parlé l'autre jour d'un thème avec le policier, notamment. C'est pour les gens qui ont vu Rendez-vous au Kiruna. Et tu avais pensé à une par rapport à la première histoire, un autre thème musical. Et tu peux
Le thème avec le policier, là, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Donc c'était le on se demandait avec Anna si on n'allait pas traiter ce personnage de Stig, qui est un petit peu le troisième personnage principal du film, qui est un policier qui vient d'être à la retraite et qui arrive en gros pas à décrocher. On s'était dit peut-être qu'on pourrait le traiter un petit peu façon film noir et donner une tournure un petit peu. Bon, au final, ça marchait pas du tout. Mais c'était bien de l'essayer.
Ouais.
Et c'est vrai, oui, effectivement, j'avais aussi sur la toute première version du scénario, l'histoire était exactement la même et en même temps radicalement différente. Parce que pour ceux qui ont vu le film, en fait, le personnage d'Ernest, qui est joué par Jean-Pierre Darroussin, va reconnaître le corps de son fils dans la version actuelle du film qu'il n'a jamais connu, et puisqu'on lui a fait un enfant dans le dos, dans la version originale du scénario qu'il avait connu, qu'il avait élevé et qu'il avait connu jusqu'à ce qu'il ait 15-16 ans. Donc ça donnait un film vraiment, vraiment radicalement différent. Et donc les idées musicales et ce qu'on avait commencé à ébaucher étaient vraiment aussi très, 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 très différents. C'était un film qui était énormément sur le deuil. Et qui a été empreint d'une religiosité sans jamais être expressément dite, qui était vraiment empreint de quelque chose de très sacré. Et le personnage de son fils, donc le personnage décédé dès le début du film, était un jeune d'une vingtaine d'années qui travaillait dans une maison de retraite et qui s'occupait des personnes âgées. Et donc j'avais commencé à ébaucher des idées de... Effectivement, d'avoir un cœur comme ça qui accompagnerait tout le voyage de cet homme jusqu'au nord de la Suède, et qui serait essentiellement un cœur de petits vieux, qui serait chanté par les petits vieux de la maison de retraite.
Bien.
Quand tu t'es lancé, quand tu étais tombé dans la musique de film, quand ça a été, à l'origine c'est les demandes d'ailleurs, fait que tu te plonges là-dedans, parce que c'était pas forcément quelque chose qu'a priori tu connaissais ou un exercice que tu avais déjà pratiqué, du coup t'as un peu découvert cet univers-là, tu t'y intéressais avant ou du coup tu t'es documenté, t'as justement commencé à écouter les musiques de film, des choses comme ça.
Oui, je m'y intéressais avant, mais plus on avance et plus j'ai eu soif de connaître, de découvrir. J'ai lu aussi beaucoup de choses sur les grands.
Les grands, justement, pour toi, lesquels sont-ils?
Ah, les grands, ils sont nombreux, mais il y a Bernard Herrmann qui pour moi est un de mes héros. Tous les grands mélodistes aussi, j'aime beaucoup Delerue, toute cette époque-là, je trouve qu'il y avait une...
De Roubaix.
Voilà, exactement.
François de Beaumet, c'était
voilà,
ton quiz.
Parlait, voilà, moi, c'était mon, c'est un de mes un génie.
Et puis des choses qui sont moins, des gens qui sont moins connus pour la musique de film, dont j'aime beaucoup les musiques de film aussi. Je pense notamment aux musiques de Pierre Bachelet pour certains films que j'ai trouvé, par exemple.
C'est vrai qu'il en a fait pas
mal. La musique de Coup de tête que je trouve vraiment.
Coup de tête, c'est le c'est le premier film de Jean-Pierre Darroussin. Il joue le rôle du photographe dans Coup de tête, le film de Jean-Jacques Annaud. C'est le tout premier film de Jean-Pierre Darroussin. C'était tourné avec. C'était une équipe de football qui devait s'appeler Trinquant, et en fait, c'était l'image de la JOCR.
En avant Trinquant.
En avant Trinquant, voilà, c'est ça.
Oui, donc, c'est un univers.
C'est un retour assez c'est sympathique, quoi. Pascal, tu as des projets, bien sûr, plein de projets. Immédiatement, ton actualité, ça se situe comment?
Je vais commencer à travailler sur un nouveau long là, qui va normalement être filmé dans un mois et demi. Donc je devrais commencer à travailler là-dessus incessamment. Un truc qui va être tourné en Angleterre, un film anglais, là pour le coup. Donc ça serait ma première expérience de musique de film avec le cinéma anglais.
Il y a peu de productions anglaises, hein. c'est pas très souvent quand même. Et puis ils fonctionnent pas trop chez eux, ils viennent plutôt chez nous les films anglais, non?
Ça dépend. Il y a toute une industrie, il y a tout un côté de l'industrie qui est pour le coup qui fonctionne que chez eux et qui traverse assez peu peu la Manche.
Ouais. Et c'est des productions BBC, ça, non?
Non.
Non, même pas.
Non.
D'accord. Donc c'est vraiment.
C'est des productions indépendantes.
Ah ouais, d'accord. Donc là, tu as ce film et tu as toujours des pubs sous le coude, des choses comme ça.
Oui, toujours des pubs sous le coude.
Et puis je crois que tu donnes des cours aussi.
Je donne des cours, j'anime plutôt des ateliers, des sessions de production musicale, dans un...
Et alors là, tu rencontres des jeunes virtuoses peut-être d'ailleurs, hein, enfin des jeunes artistes au moins, et c'est peut-être pour toi un vivier pour quand tu as besoin de musiciens sur des compléments d'orchestre, choses comme ça.
Effectivement, on fait des rencontres un peu à toutes les occasions, et c'est vrai que dans ces ateliers que j'anime, des fois on tombe sur des musiciens très très inspirés. Donc d'ailleurs, pour les musiques de rendez-vous à Kiruna, j'ai fait travailler la violoniste, je l'ai rencontrée par ce biais-là justement, je l'ai rencontrée aux ateliers que j'animais.
D'accord. Et je sais maintenant, et j'ai entendu que pour rendez-vous à Kiruna, tu chantes aussi, un peu.
Ouais, quand il faut.
tu chantes bien en plus, vraiment très bien. C'est la voix de Pascal sur l'extrait numéro 1 qu'on a écouté.
Ok, donc merci. Merci de venir.
Pascal, merci. On te souhaite un parcours merveilleux, que ça continue comme ça, vraiment, que tu aies beaucoup de succès, de réussite et du plaisir, parce que la musique, c'est une passion, c'est le plaisir. Alors je voudrais plaisir, vraiment te dire que nous, Loukramé, on est content que tu sois venu dans nos studios. On voulait aussi te dire merci de nous avoir permis de rencontrer Anna Nouvion et Jean-Pierre Darroussin. Et puis, t'es le bienvenu, hein, tu viens quand tu veux, pas de problème.
Merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt.